bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux dans cette salle du CRM pour ces cafés presse. Le café presse qui aujourd'hui va tabler sur la problématique de l'accès à l'information pour les élections démocratiques, transparentes et apaisées. Comme vous savez, on exige souvent aux journalistes d'aller chercher l'information. On exige toujours aux journalistes d'être responsable dans la relation des faits, mais rarement on demande aussi aux sources d'avoir, on va dire, les devoirs d'accorder aux journalistes un accès facile à ces informations. D'où l'objet de ces cafés presse qu'organise EGED en collaboration avec Internews, pour justement essayer d'établir sur l'état de la question. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur, le plaisir d'accueillir pour discuter. Évidemment, celui qui nous reçoit, c'est le secrétaire général de Journalistes en danger, GED, M. Tivis Tiwadi, que voici, qui va faire un mot d'ouverture. Après, nous allons suivre 3 minutes, 2 minutes 50 de Vox Pop qu'on a réalisé pour illustrer ces cas d'accès à l'information. Et après, nous aurons le plaisir de bénéficier de l'expertise de nos 3 invités qui sont là. Monsieur Henri-Christin Longenja de Collectif 24, le professeur Kabongo qui est avec nous, et ainsi que l'honorable Patrick Mouyaya qui est journaliste de formation, qui a pratiqué, qui aujourd'hui a rejoint le Parlement, qui suit également les questions au niveau de l'Assemblée nationale. Sans plus tarder, je vais inviter Monsieur Tivis Tiwadi pour son mot des circonstances.
Merci. Je voudrais d'abord m'acquitter, comme on dit, d'un agréable devoir, celui de vous souhaiter à tous, à chacun, à chacune d'entre vous, la bienvenue dans cette salle, et vous remercier d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Je voudrais aussi saluer ces invités de marque qui nous ont fait l'honneur d'être là et qui vont participer à ces échanges. Ce café presse est organisé par GED en partenariat avec Internews sur le financement de la coopération suisse, mais avec des fonds complémentaires de l'USAID. Et comme vous le savez, depuis avec la publication par la CENI de son calendrier électoral qui fixe pour la fin de l'année prochaine les élections, l'organisation des élections générales, donc présidentielles, législative et provinciale, la RDC se trouve engagée dans une sorte de ligne droite qui doit nous conduire vers ce qu'on appelle la première alternance démocratique, mais en même temps vers ces élections que tout le monde appelle de ses voeux, qui se déroulent dans un climat non seulement démocratique, mais qui soit vraiment apaisé. Malheureusement, il faut constater que le processus qui mène à ces élections, le processus électoral qui mène à ces élections se déroule dans un climat de vive tension politique, une tension politique qui s'accompagne des violences, comme j'ai dit toujours, et des violences qui n'épargnent pas des journalistes. Dans ces conditions, on peut se poser déjà la question, comment un processus qui se déroule dans un tel climat peut-il aboutir à des élections qui soient vraiment apaisées? C'est la question. Mais en même temps, j'ai parlé des violences qui touchent les journalistes. Notre dernier rapport a bien indiqué que des journalistes dans cette période subissent pas mal d'exactions dans le cadre de leur travail, et que donc à côté de ces violences physiques, il y a aussi des cas de censure, il y a des cas de difficultés d'accès effectivement à l'information. Et pourtant tout le monde reconnaît aussi que si on veut avoir des élections apaisées, l'apaisement ou non des élections ne peut provenir que de la transparence. La transparence du processus qui doit être assurée, effectivement, par les journalistes. Et donc, c'est dire que les journalistes ont un rôle éminent à jouer pendant cette période. Et comme a dit Patience, si dans leur travail quotidien, les journalistes sont obligés, de par la loi et par leur déontologie, de vérifier les informations qu'ils doivent diffuser, aucune obligation, il n'y a aucune loi qui fait obligation à ces sources de pouvoir diffuser ces informations. Donc c'est une difficulté supplémentaire pour les journalistes dans leur cadre de leur travail. Et donc nous sommes donc réunis ici dans ce cadre pour faire l'état des lieux de la situation de l'information en général, de manière générale, comment les journalistes arrivent ou essayent de faire leur travail dans ces conditions. est-ce que les journalistes arrivent à donner les informations dont le public a besoin? Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent? Parce qu'au-delà du travail de journaliste, au-delà du droit à l'information, il y a le droit du public à l'information. Et comme on a dit, la loi d'accès à l'information, pour moi, ne doit pas être un prétexte pour les journalistes pour ne pas faire leur travail. D'autant plus que, comme vous le savez, la loi d'accès à l'information n'est pas une loi particulière pour les journalistes. C'est une loi citoyenne qui intéresse tout le monde. Et au niveau des organisations professionnelles et des organisations de la société civile, nous avons commencé à faire depuis plusieurs années un plaidoyer justement pour cette loi d'accès à l'information. On va en parler et c'est pour cela qu'il y a le président du collectif 24 qui est là pour nous parler en fait des enjeux actuels par rapport à cette loi. Quels sont les enjeux de cette loi d'accès à l'information dans les enjeux qui sont les nôtres si nous voulons avoir des élections démocratiques et transparentes? Il va nous en parler pour ne fût-ce qu'essayer de comprendre aux politiques qui semblent ne pas comprendre l'importance de cette loi, que si nous voulons effectivement avoir des élections transparentes, il est important de pouvoir doter les citoyens de manière générale et les médias de cette loi d'accès à l'information. Il y a un plaidoyer qui a été fait, il y a un projet, une proposition de loi qui a été déposée au niveau du Parlement. Où est-ce qu'on en est avec ce projet? L'honorable Patrick Mouya est justement là pour ça, pour nous faire l'état d'avancement de cette loi qui est importante au niveau du Parlement. Voilà un peu en gros ce dont on va parler ce matin. J'espère qu'au sortir d'ici, au sortir de ce café presse, chacun aura contribué, peut-être par des propositions, pour que demain, le travail de journaliste soit facilité. Et que peut-être à l'avenir, nous puissions tous ensemble saluer la promulgation de cette loi qui est importante pour tous les citoyens, mais particulièrement pour nous, les journalistes.
Merci beaucoup, Monsieur Tuvis, pour ce beau contexte qui résume plus ou moins les cadres dans lesquels nous sommes. Et puisqu'on dit que c'est une loi citoyenne, une loi qui intéresse tout le monde, pas que le journaliste, nous avons baladé pendant 2 minutes 50 les micros pour justement demander aux citoyens qu'est-ce qu'ils en pensent justement de ces thématiques. On va écouter et puis on va revenir pour le débat.
Les difficultés en ce qui concerne l'accès à l'information en RDC persistent toujours, puisqu'il y a des milieux tels que la présidence de la République qu'on atteint difficilement, vous savez.
La liberté d'expression est actuellement volatile à Goma, spécialement la police qui veut se comporter comme un guide d'angle pour les reportages des événements.
Les autorités ne donnent pas l'information au moment voulu ou alors au moment opportun. C'est ce qui fait même souvent que la rumeur prenne le dessus en lieu et place de l'information. Par exemple, les journalistes obtiennent difficilement les informations des postes de police, des camps, des militaires. Le maire, lui, n'en parle même pas.
Aujourd'hui, à Lubumbashi, aucun média, aucun journaliste n'est en mesure d'informer le public, le Louchois, les Haut-Katangais, sur ce que le gouvernement provincial paye en termes de location du bâtiment abritant maintenant le bureau du gouverneur. Parce que vous savez qu'à Lubumbashi, le gouvernorat est en train d'être réhabilité et réfectionné.
En ce qui concerne les libertés d'expression, c'est encore un autre problème. Il suffit juste de voir comment les gens évitent des sujets qui fâchent sur les milieux publics par crainte de se faire réprimander par la police. La police qui, normalement, devait être à la portée de la population, en RDC, les gens ont peur de la police, surtout qu'on assiste désormais à une sorte de bras de fer entre les autorités compétentes et la population. Même nous, en tant que journalistes, on tourne la langue plusieurs fois. Il y a une autocensure criante qu'il faut faire avant de prendre parole, ce qui ne s'explique pas.
On assiste à une sorte de prise en otage de médias dans le Haut-Katanga, principalement à Lubumbashi. Tous les médias des opposants sont fermés. Et puisque tous les médias des opposants sont fermés, on a affaire à un son de cloche seulement. Et par conséquent, le journaliste traite les informations en faveur de leur employeur qui est le gouverneur.
Merci beaucoup Olivier Touzolana pour ces tours. Professeur Emmanuel Kabongo, on a fait les tours de journalistes comme d'autres personnes font l'État. Et évidemment, il y a la police qui ressort, on a les gouvernorats, on a pas mal d'informations et ça va un peu dans tous les sens. Si on vous demandait de faire l'état des lieux aujourd'hui du droit de l'information en RDC avec un accès sur un axe sur l'accès à l'information, qu'est-ce que vous direz? Vous avez la parole.
Merci beaucoup pour la parole. Je voudrais rappeler ici que EGED est une organisation indépendante créée par des journalistes et qui demain aura 20 ans. De ce fait, nous avons toujours travaillé pour les journalistes et pour les lecteurs. Parce qu'en travaillant pour les journalistes, nous travaillons en fait pour les lecteurs. Alors, du côté des jeunes, nous nous posons la question de savoir si les droits à l'information de notre peuple est bien exécuté par les détenteurs de ce pouvoir-là, de ce devoir-là, que sont les journalistes. Vous avez entendu tout à l'heure une jeune femme qui dit qu'au Congo aujourd'hui, c'est l'autocensure, personne ne veut aborder les sujets qui fâchent, tout ça, les gens ont peur. Alors, nous nous interrogeons. Dans ces pays, depuis 30 ans, il y a ce qu'on appelle un boom numérique. C'est-à-dire que nous avons le plus grand nombre de journaux de toute l'Afrique centrale réunis. Nous avons le plus grand nombre de télévisions, le plus grand nombre de radios de toute l'Afrique centrale réunis. Mais alors pourquoi est-ce que dans ces pays-là, nous avons l'électorat le plus faible? Pourquoi c'est dans ces pays-là, les téléspectateurs, les auditeurs ont des opinions volatiles? Donc il y a un problème qui se pose, c'est qu'il faut aujourd'hui, en tant que journaliste, s'interroger si réellement nous faisons notre travail correctement pour donner au peuple les informations utiles, n'est-ce pas, et fiables, qui sont fondatives de grandes opinions et de grandes connaissances. La preuve est que, depuis une dizaine d'années, une vingtaine d'années, les médias congolais sont les plus pauvres d'Afrique noire. Tous les médias vivent une faillite non déclarée. Pourquoi? Parce qu'il y a incapacité d'accéder au lectorat. Les gens ne payent pas des journaux, les gens suivent les télévisions, et sur les télévisions, qu'est-ce qu'ils suivent? C'est des petits cinémas, films étrangers, indiens, rien à faire. Ça signifie quoi maintenant? Ça signifie que les annonceurs ont fui les médias. Le média ici, quand vous regardez le matin, il n'y a vraiment pas rien comme annonceur. Ils n'ont pas de revenus, ils payent des salaires microscopiques aux journalistes, et nous sommes en train de sombrer. Donc, nous nous interrogeons aujourd'hui, pourquoi est-ce que le public congolais fuit les médias congolais et s'agglutine autour des médias périphériques pour apprendre l'information sur le Congo? Ça signifie que le contenu que nous exploitons, que nous traitons et diffusons, ne sont pas des contenus qui agrippent l'imaginaire, qui attrapent l'intelligence. Nous sommes devenus des porte-parole des ministères, des porte-parole des hommes politiques, sans aucune enquête. La preuve est qu'il y a eu beaucoup de scandales dans ces pays. On a parlé des Panama Papers. Alors que ces informations étaient bien vérifiées, bien investiguées par les médias internationaux. Il y a eu ici un monsieur Lumumba qui travaille à la BGFI Bank, qui a fait un travail sérieux, qui a démontré que tout l'argent pour les élections a été volé par cette banque avec des hommes politiques. Et on a cité des noms. Kimbuta a arrêté les véhicules pour dire payons des vignettes. On dit allez à la banque pour payer. Mais quand vous arrivez à la banque, vous ne trouvez pas un guichet ouvert. Vous trouvez plutôt des agents de Kimbuta qui sont là avec des seaux et des sacs, qui prennent de l'argent et qui vous signent des trucs à la main. Aucun journaliste n'a fait une enquête pour savoir. Donc il y a là un problème réel où les journalistes congolais, soit par incompétence, soit par corruption, soit par peur, soit par paresse, s'obstinent à ne donner aux Congolais que des informations protocolaires. Ça, le peuple répond à tout ça, en se délaissant, en méprisant notre presse, en méprisant nos journaux. Moi, je donne un exemple très simple, issu du potentiel. Le potentiel qui prétend être un grand journal sur Kinshasa n'arrive même pas à vendre 1000 numéros sur une population de 15 millions sur Kinshasa. Mais le reste ici. Donc c'est dangereux, mes amis. Nous devons nous interpeller. Nous parlons ici en tant que JET, c'est-à-dire une association de journalistes. Nous ne sommes pas un syndicat. Vous continuez aujourd'hui, ne porte aucunement sur l'intérêt général. Dans un pays à scandale comme le vôtre, c'est vrai qu'il y a encore des journalistes qui sont arrêtés. Ce Jacobon a été arrêté par Mme Aguito parce qu'il a voulu publier un travail sur le détournement des fonds à la SONAS ou sur les impayements des salariés. Mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité? On l'a amené au parquet. Le parquet a dit qu'il n'y a rien. Le parquet l'a relâché. Ça, c'est une figure. Si nous suivons quand même certaines justices, la justice là, peut vous rendre justice. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, j'aide à apprécier le travail qui est fait par les médias en ligne, qui sont très interactifs, qui sont très rapides. Donc, si vous ne suivez pas les rythmes des médias en ligne, là, vous allez sombrer. Nous travaillons pour l'intérêt général, pour voir comment est-ce que la cité est gérée et donner les formations à notre peuple pour qu'il puisse avoir les conditions de possibilité de voter en toute connaissance de cause. Mais si vous n'êtes pas capable de démontrer que les gens qui nous gèrent nous gèrent mal, vous laissez le peuple ici aller, n'est-ce pas, aux élections là-bas comme à l'abattoir pour se faire couper la tête. Voilà, monsieur, je vous remercie.
Merci beaucoup, monsieur professeur Emmanuel Kabongo, pour cette remise en question, puisqu'il a parlé aux journalistes en tant qu'également un professionnel des médias et qui directement nous permet de jeter les ponts en nous projetant vers monsieur Henri-Christin Longenja, qui est le secrétaire exécutif du collectif 24, qui va lui nous parler des enjeux, justement, des enjeux du droit à l'information, des enjeux de cette loi, justement, en rapport avec les élections à venir. Vous avez la parole.
Oui, merci. Bonjour à tous. Je pense que pour donner les enjeux, il est important de comprendre dans un premier temps que, comme le disait le secrétaire général tout à l'heure, que la loi relative à l'accès à l'information, c'est une loi citoyenne qui concerne tout le monde. C'est comme l'article 24 de notre Constitution qui dit « Toute personne a droit à l'information ». Et dans une société démocratique, l'accès à l'information doit être un principe qui doit guider même l'organisation, la conduite, la surveillance des élections, pour que ça soit accepté par tous. Parce que vous vous souvenez, dans ces pays, en 2006, il s'est posé le problème du fichier électoral, où les gens voulaient auditer les fichiers, mais ils n'ont pas eu accès. C'était le problème d'accès à l'information, parce qu'ils ont douté. Et que, comme ils n'avaient pas accès à l'information, conséquence, on a eu des contestations, et finalement, on a eu la guerre ici à Kinshasa. En 2011, c'est la même chose. C'est pour dire que partout au monde, là où les droits d'accès à l'information n'accompagnent pas le processus électoral, ça fait appel à des suspicions, à la méfiance, et par conséquent, il n'y aura pas un consensus parce qu'on ne sait pas ce qui est en train d'être fait. Mais si on privilégie l'accès à l'information, c'est-à-dire que l'accès à toutes les données, à ce moment-là, je pense que ça va créer la confiance, ça va susciter cette confiance et que les élections qu'on cherche être transparentes, démocratiques, apaisées, peuvent aussi être acceptables par tous. Les enjeux par rapport à la loi, je pense bien que si nous parcourons le texte de loi qui est encore au niveau du Parlement maintenant, prenons seulement les principes que ce texte évoque. Les mêmes principes sont aujourd'hui édités par l'Union africaine, parce que l'Union africaine a aussi écrit actuellement les principes directeurs d'accès à l'information pour les élections démocratiques et transparentes en Afrique. En plus de la charte pour la gouvernance des élections, en plus de la charte des droits de l'homme et des peuples, la CENI en tant qu'organe, si nous prenons les principes directeurs qui guide l'accès à l'information dans tout processus électoral pour qu'il soit dit démocratique et transparent. Il est demandé à la CENI de publier des informations de manière proactive. Proactive, ça veut dire avant. Il ne faut pas attendre qu'on puisse venir demander. Et lorsqu'on entre dans le site de la CENI, il faut qu'on trouve ces informations. À titre illustratif, je dis que la CENI est appelé à créer, à garder et voire même organiser et conserver les archives d'une manière à faciliter l'accès à l'information. Et il est demandé aussi à d'autres opérateurs, tels que même la sécurité. La sécurité doit dire combien la police électorale est censée aussi de dire combien d'argent on a mis à sa disposition. Quelles sont les mesures qu'ils prennent pour sécuriser les opérations de vote? Quelles sont les mesures qu'ils prennent pour essayer de rassurer tout le monde. Les partis politiques, il est demandé, parce qu'ils sont aussi acteurs, de publier quelles sont les procédures qu'ils mettent en place pour les choix des candidats et l'identité de chaque candidat. Et déclarer les avoirs, combien ils vont mettre comme paquet pour mener la campagne. Ceci pour éviter les détournements ou soit les blanchissements d'argent. Il en est même du gouvernement ou des candidats qui sont au niveau du gouvernement de déclarer aussi leurs avoirs et comment ils font pour se départir des biens publics au lieu de les utiliser dans la campagne. Donc, et la société civile, quand on fait les missions d'observation, il est demandé d'abord de publier l'identité ou soit des observateurs pour savoir est-ce qu'ils sont bien formés, quel est le code des observateurs, comment on les a déployés, les rapports, et publier les rapports avec toute indépendance. Donc, les textes, nous allons placer à la disposition des jeunes qui pourraient vous balancer. Il y a plusieurs principes pour que chaque acteur puisse vraiment jouer son rôle et afin qu'on puisse dire que le processus est démocratique. Et voilà l'enjeu par rapport à cette loi, parce que comme je disais, ces principes sont repris dans la loi sous examen. Et que si cette loi est votée maintenant, ça permettra à ce que tout le monde puisse aller demander les informations. Parce que souvent, comme le prof disait, j'ai toujours dit souvent lorsque nous discutons avec les journalistes, j'ai dit, soyez les journalistes d'information et non les journalistes d'opinion. Parce que les journalistes d'opinion, bon, vous m'accordez les micros, je vous donne ce que je pense. Mais les journalistes d'information, je vais scruter à la source. Je dis souvent aux observateurs électoraux, je dis souvent nous n'observons pas, nous venons constater. Parce que lorsqu'on est en train de saisir, l'opérateur de saisir est là, il est en train de saisir. Moi, je ne me mets pas derrière son ordinateur, je me mets devant. On dit, vous les observateurs, soyez là. Mais je ne sais pas ce qu'il est en train de saisir, si c'est conforme par rapport à ce qui est dans le bulletin. Parce que je ne peux pas accéder, me placer derrière lui pour savoir est-ce que la place de 5, il a mis 5. Alors, donc, vous voyez qu'en utilisant l'approche basée sur l'accès à l'information dans tout processus électoral, ça permet à ce qu'il y ait plus de transparence et de crédibilité et les élections peuvent être apaisées et acceptables par tous.
Merci infiniment pour toutes ces précisions, des propos qui rejoignent vraiment ce que le professeur Emmanuel Kabongo avait dit. Donc, c'est à nous, journalistes, également d'aller, même en attendant que la loi ne soit promulgué. C'est à nous vraiment, journalistes, d'aller chercher l'information, non pas seulement être le relais des opinions des hommes politiques. Alors, on va justement faire le lien avec le Parlement, où la loi électorale est en train d'être discutée, mais nous allons parler du droit, justement, à l'accès à l'information avec l'honorable Mouyaya qui a été longtemps journaliste, qui a fait un cursus journalistique et qui aujourd'hui se trouve au Parlement, qui, faut le dire également, suit particulièrement aussi des questions liées non seulement à ces différentes lois mais aussi à l'information, au développement des médias dans ce pays. Alors on va se retourner vers l'honorable Mouyaya. Où est-ce qu'on en est avec cette loi si importante eu égard aux propos tenus par le professeur Emmanuel Kabongo, mais aussi par M. Longuenja?
Alors, merci à GED, merci de l'initiative. Je ne ferai pas l'économie des encouragements pour cette initiative qui nous réunit ce matin. Mais pour aller droit au but, la loi sur l'accès à l'information est en train de faire la navette. La navette, elle dure plus longtemps que prévu, comme nos collègues du Sénat, l'honorable Moïse Nyarugabo, qui a été contacté par les collectifs 24 dans le cadre de la campagne qui a été faite dans ce sens, a porté la loi au niveau du Sénat. La loi a été adoptée par la Chambre sœur, elle a été renvoyée à la commission PAJ pour qu'elle puisse être étudiée par l'Assemblée nationale, comme les vœux, les procédures parlementaires. C'est à ce niveau-là que les discussions c'est fond pour l'instant. Je ne suis pas sûr que les discussions aient été faites hier, puisque la loi a été transmise quand même il y a plus d'une année, je crois. Mais c'est une question, à mon avis, d'opportunité ou d'urgence. Si la question de la loi n'a pas encore été annulée en plénière, peut-être puisqu'on estime qu'elle n'est pas importante ou elle n'est peut-être pas critique, puisqu'on parle du processus électoral. C'est pas seulement cette loi qui est en train de souffrir au niveau de l'Assemblée. Il y a la loi qui concerne particulièrement les médias, celle liée à l'exercice de la liberté de la presse qu'un collègue a proposée. Nous en sommes encore dans les les cheminements parlementaires. Mais la vérité, c'est que par rapport à cette loi, il y a beaucoup d'appréhension. Beaucoup d'appréhension, puisque les gens pensent que si on donne cet outil, non seulement, la loi là, elle est d'ailleurs, pour moi, elle n'est pas, c'est une, pas une loi des journalistes. C'est une loi qui accorde aux citoyens la possibilité eux-mêmes de prendre l'initiative et d'aller vers les sources d'information. C'est une loi qui nous faciliterait, même nous, les députés, nous n'avons pas toujours les informations que nous voulons, croyez-moi. Et que s'il y a cette loi qui crée le cadre, qui nous permet d'aller demander des informations à gauche, à droite, c'est une loi qui peut nous faciliter, notamment dans le cadre du contrôle parlementaire. Et donc, vous voyez que c'est une loi qui suscite beaucoup d'appréhension, puisqu'on pense, dans un pays où nous avons la tradition du tabou, fort malheureusement, je crois que les influences de nos coutumes, de nos villages, se répercutent dans nos quotidiens. Dans ce pays, on adore les tabous parfois pour rien. Et pourtant, au XXIe siècle, moi je pense qu'il est temps de mettre tout sur la place publique. De mettre tout sur la place publique et surtout si on estime que nous n'avons rien à cacher. Donc, mais ceci n'empêche pas, malheureusement la session se termine dans 2 jours, que nous puissions reposer le problème cette fois au niveau du bureau pour voir dans quelle mesure cette loi pourra être effectivement alignée en plénière. La loi dont on parle, on la lie au processus électoral, puisque c'est vital l'information en période électorale. Mais je dois dire un point, on n'y fait pas très attention, mais dans ce pays on veut construire une démocratie sans démocrate. Nos partis ne sont pas démocratisés, ni nous-mêmes. Je n'interroge pas l'état des lieux de la démocratie dans les médias, entre guillemets. J'estime que de ce côté-là, la question ne se pose peut-être pas. La démocratie, fort malheureusement, dans notre compréhension, c'est simplement le fait d'aller voter. Pas du tout. La démocratie vous impose la rélevabilité. La démocratie vous impose justement la tolérance, l'acceptation de la contradiction, l'acceptation de la critique. Et de ces points de vue, fort malheureusement, je ne sens pas beaucoup d'entre nous être prêts à vivre cette acception de la démocratie, au-delà du fait qu'il faut aller voter. La preuve, beaucoup de mes collègues, si pas moi-même, quelquefois, nous soustrayons de notre obligation de rélevabilité, qui est essentielle. Et donc, vous voyez que nous avons un problème de compréhension et même de perception de concepts de manière générale. Et puis nous avons dans ce pays un sérieux problème structurel à tous les niveaux en matière de communication. Peut-être que les éléments avancés tout à l'heure par Henri Crispin sont disponibles au niveau de la CENI. Mais est-ce que la CENI a un site qui est régulièrement mis à jour? Est-ce que le président de la CENI, quand il s'élève le matin ou hebdomadairement, il a des réunions avec ceux qui gèrent le site? Est-ce qu'il s'en assure? Je ne sais pas. Puisque fort malheureusement, j'ai travaillé à la primature, j'ai travaillé à l'Assemblée nationale au bureau provisoire, mais vous remarquerez que la communication, c'est l'allié qu'on veut utiliser quand on a des problèmes. Ah, on attaque les bureaux. Ah, nous devons nous défendre. C'est là qu'on pense qu'on doit recourir aux médias. Mais on ne recourt pas aux médias dans une dimension proactive. Quand j'étais au bureau de l'Assemblée, j'avais institué un programme de points de presse hebdomadaire, un peu comme la MONUSCO. Je crois que si les programmes étaient maintenus, y compris l'utilisation de la télévision parlementaire, non pas pour en faire une chaîne où on passe des communiqués nécrologiques, mais une chaîne où on aurait pu commencer à faire une pédagogie. Puisque la vraie difficulté que nous avons, c'est que nos électeurs que vous êtes, ce qui vous intéresse dans notre travail, c'est pas d'abord les lois que nous adoptons. C'est notre capacité à régler les problèmes d'eau, de courant, d'accès à l'école et tous les restes. Et pourtant, nous avons tous des prérequis en termes de droit ou des béaba du droit. Les faits précèdent les lois. Les lois qu'on adopte, en réalité, nous venons mettre de l'ordre dans les faits qui sont déjà vécus en société. Il ne devrait pas y avoir des problèmes. Je vous donne un exemple concret. Nous avons adopté la loi sur les baux et loyers qui plafonne la garantie locative pour un usage résidentiel à 3 mois. Mais qui s'occupe de ça? Ni celui qui cherche, ni les locataires, ni les bailleurs. Et personne ne s'est plaint. C'est pas la faute du député, entre guillemets. La loi, elle est là. La loi prévoit qu'on ne paye pas des garanties des 10 mois. On doit payer la garantie de 3 mois. Et si les bailleurs ne veulent pas, vous avez même la latitude de l'accuser auprès des autorités compétentes, mais on ne les fait pas. Et donc, vous voyez que nous avons un problème structurel, global, en termes des perceptions de ce que ceci nous impose. On a parlé des rapports ici. J'ai lu particulièrement le rapport du groupe d'études sur les Congos qui a fait le point sur la fortune du président et tout le reste. Mais est-ce que vous savez que la plupart des informations qui ont été diffusées là-bas, ce sont des informations qui sont publiques, qui ne sont pas cachées? Ils sont partis voir au tribunal de commerce ici, on a dit telle société appartient à tel monsieur, à tel, ils sont partis, tel bâtiment appartient à tel, ils sont partis. Vous voyez par exemple que ça, c'est des choses qui sont basiques mais auxquelles nous ne pensons pas toujours. Puisque pour nous, les journalistes, fort malheureusement, on est habitué à faire la couverture des audiences. Tel a reçu tel, tel a reçu tel, tel a reçu tel. C'est pour ça que fort malheureusement, nous, la presse, je suis désolé, on peut avoir autant de titres des médias, on peut avoir autant de chaînes de télévision, mais je ne suis pas sûr qu'avec cette manière de faire, nous arriverons à capter l'attention du public tel que nous le voulons. Aujourd'hui, je suis désolé, les médias les plus suivis, à mon avis, ce sont les réseaux sociaux, les médias en ligne, mais c'est aussi des pseudo, entre guillemets, journalistes, puisqu'avec les réseaux sociaux, tout le monde s'improvise. Mais vous avez des pages Facebook entières de gens qui n'ont jamais été initiés au béaba de la profession, mais qui, quand ils balancent des choses avec tout sans précaution et tout le reste, mais qui font les buzz, mais que si des structures crédibles balancent l'information. Vous voyez un peu, nous avons la difficulté, je termine par l'impatience. Je crois que ces pays, nous traversons une crise de l'élite. Et cette crise la forme, malheureusement, se répercute durement sur le peuple qui devient, à mon avis, pour certains, les gens, un ami m'a dit qu'au Congo, les problèmes, c'est les peuples. Non, les problèmes, c'est pas le peuple. Le problème, c'est l'élite qui n'a pas ou qui ne réussit pas à montrer le chemin au peuple. Que ça soit au niveau politique, que ça soit au niveau culturel, que ça soit à tous les niveaux. Aujourd'hui, nous n'avons pas la culture du livre, par exemple. Nous n'avons pas, peut-être puisque l'élite n'a pas montré qu'un écrivain, un penseur, un philosophe, c'était des hommes clés dans les développements d'un pays, puisqu'un pays se pense d'abord. Et le nôtre, malheureusement, je ne suis pas sûr que nous l'avons pensé. Et tout ce que nous faisons, c'est du bric-à-brac. Nous essayons d'importer des notions d'ailleurs que nous ne réussissons pas à bien intégrer. C'est la crise. Mais la bonne chose avec la crise, c'est que la crise, c'est un moment de maturation. Si nous réussissons à sortir de la crise, je suis sûr que nous ressortirons plus fort. Voilà en guise d'introduction à mes propos à ce stade. Merci.
Merci beaucoup, honorable Mouyaya. Sans plus tarder, on passe aux questions. On va prendre la première série de questions, et puis on va prendre une deuxième, et puis on va terminer. Vous vous présentez, et puis... Vous posez votre question. On va éviter au maximum de faire des avis. On sait tous qu'on a des opinions, mais on va directement essayer d'aller dans les questions parce qu'on est, mais vraiment, on veut être dans le temps. Merci.
Je me présente Rumbu Kamanga de l'Agence catholique de presse d'IA. Ma question s'adresse principalement à l'honorable Mouyaya. Que faites-vous en tant qu'ancien professionnel des médias au niveau du Parlement, pour pousser la cause de votre ancienne profession? Avez-vous constitué un lobby d'autres députés pour peser et qu'il y ait célérité dans l'adoption de la loi sur l'accès à l'information?
Vous êtes quand même maintenant nombreux, il y a une colonie de journalistes au Parlement maintenant. Qu'est-ce que vous faites exactement pour faire avancer les droits à l'information? Deuxième question.
Patrick Ilunga du journal Géopolis. Ma question s'adresse au professeur Emmanuel. Le professeur a dit c'est à cause du contenu que le public a tourné le dos. Maintenant, je pose la question. J'ai lu un professeur qui a dit depuis l'histoire, bon, l'époque coloniale, l'histoire de médias et consorts journaux, c'était l'histoire de Mindele et de Mindele Ndombe. Donc le grand public ne lisait pas forcément. Est-ce que c'est pas un problème d'abord de culture avant de parler du contenu?
Irène Moussouné, RTGA. La première question, s'adresse au professeur Kasongo. Vous avez décrit un tableau sombre de la situation de médias congolais, et où vous avez parlé notamment de la crise financière qui sévit, mais également la crise des contenus médiatiques. Alors, quel remède proposez-vous justement pour remettre en confiance ce public qui a finalement fini par basculer vers les chaînes étrangères, si on peut le dire? Faut-il penser à organiser par exemple une table ronde qui réunisse tous les acteurs qui produisent quelques programmes ou quelques contenus médiatiques? Et à Monsieur Henri Longenja, je voudrais savoir où en est le collectif 24 par rapport au suivi du projet de loi portant accès à l'information au niveau du Parlement. Est-ce que faut-il exercer une forme de pression pour arriver à sa fin? Et pour terminer, à Monsieur Patrick, à l'honorable Patrick Muyaya, je voudrais savoir que vous nous disiez si vous pensez que la loi d'accès à l'information dépendrait d'une manière ou d'une autre à la démocratie parlementaire qui est mise à mal, apparemment.
Répondre d'abord à cette question et puis on va aller à la deuxième série. Je propose qu'on commence par le député, comme ça on va avancer vers Monsieur Longenja. Donc,
la première question de l'agence DIA. Quand on est élu député, on est député pour un mandat national et on n'est pas député pour le camp d'une profession. Et pour ce qui concerne la loi d'accès à l'information, il faut qu'on fasse très attention. C'est pas d'abord une affaire de journaliste ici. La loi d'accès à l'information concerne tout le monde. La preuve au Sénat, c'est pas un journaliste qui l'a portée, c'est un avocat qui l'a portée. Puisque l'accès à l'information ici, c'est une loi en fait qui vous permet. Vous levez un matin, vous dites. Moi, je veux savoir combien la Banque centrale dépense pour les paiements de son personnel. Vous allez à la Banque centrale, vous êtes étudiant, vous êtes chercheur, vous présentez votre carte, vous dites, moi, j'ai besoin de telle information. Ça veut dire qu'ici, la recherche de l'information n'est plus seulement de l'apanage du journaliste. Puisque tout ce que nous savons, nous le savons par les médias. De manière, vous levez les matins, le phare a dit quoi? Forum des As a dit quoi? Mais là, à la différence de ce que vous pouvez, de ce qui peut vous être rapporté par les médias, vous avez la possibilité, vous-même, les cadres légaux, vous permet d'aller à la recherche de l'information partout où vous voulez. Aujourd'hui, on parle, et c'est une loi qui a beaucoup, on parle de open society, de open data, des données qui permettent de s'assurer que ces pays est transparent, on évolue dans la transparence, puisqu'on parle du postulat que lorsque vous n'avez rien à craindre, vous n'avez rien à cacher. Mais moi, je crois que la question de la loi sur l'accès à l'information devait être politiquement portée. Si elle était politiquement portée, elle aurait eu plus, puisque je vous donne tous les journalistes séparément, je ne les ai pas réunis, mais je sais par exemple que si je parle avec mon collègue Zachary, ou si je parle à mon collègue Basile, qui est maintenant au ministère de l'Intérieur, personne n'est a priori contre cette loi. Nous pouvons nous organiser, nous nous sommes organisés à notre niveau, puisque à 3-4 reprises, on a posé la question, on a dit en plénière, on a soulevé la question, notamment avec les collègues Juvenal Mounbo, pourquoi on n'alignerait pas cette loi en cours d'examen? C'est une question des calendriers. Et vous savez que l'homme politique, ce qu'il a de plus précieux, c'est son image, mais la véritable protection du journaliste, c'est son professionnalisme.
Professeur Emmanuel. Oui. Je voudrais dire à mon ami Patrick Ilunga que, vous savez, quand on veut subjuguer un peuple pour le rendre idiot, on crée des petites phrases du genre « pour cacher l'information aux Congolais, il faut les mettre dans un livre ». Tout ça, ce sont des petites choses que les gens racontent, hein, des petits blancs, parce qu'on joue sur notre conscience, sur notre mentalité. La culture que tu vois là, c'est une construction. Et quand elle va mal, l'élite arrête. J'ai entendu mon frère Mouya dire tout à l'heure qu'il y a un problème des élites. Les élites, leur travail, c'est construire la culture. La culture signifie, comment un peuple se présente au jour le jour devant les autres, devant lui-même. Quand un peuple comme le nôtre ici accepte qu'il travaille pour toucher 50 dollars, c'est 20 000 francs, ça signifie qu'il n'y a plus de culture. Là, il entre dans une sorte d'autodestruction personnelle. Il n'y a plus de culture. Et là, c'est le problème des élites. Les élites, leur rôle, c'est de, justement de créer une culture, de dire aux gens, vous êtes des êtres humains, créés, des êtres humains exceptionnels. Vous devez avoir une façon de vivre qui réponde aux normes. D'une part, réfuter tout d'abord toutes ces histoires des petits blancs là qui racontent, non, pour cacher une histoire à un nègre, il faut le mettre dans l'écrit. Non, c'est faux. Nous, là, nous avons, moi, je suis journaliste depuis 30 ans. Il y a quelques années, nous, on vendait, au potentiel, là, nous vendions 30 000 numéros. Le phare, là, vendait 20 000 numéros. Mon Candelounyama, avec son journal qui était dans la rue ici, vendait 30 000 numéros. Vous comprenez? Et on avait des sous. Pourquoi? Parce que l'information n'est pas que politique. C'est ça l'erreur du Congo. L'information n'est pas que politique. Au contraire, la société fournit beaucoup trop d'informations. Allez voir Molière, là. Molière que vous voyez ici. Allez voir comment est-ce que les annonceurs courent derrière Molière que tu vois là. Tout ce qu'il fait passer les touche beaucoup de sous. Tu comprends? Pourquoi? Parce qu'il a compris que les créneaux de l'information sociale, la souffrance qui est vécue, les trahisons, les mensonges, tout ça, c'est ça l'information sociale sur laquelle vous devez faire des enquêtes. Le journaliste travaille par conscience individuelle. Le journaliste, c'est un chercheur. Aujourd'hui, là, notre société est trop dévaluée parce que nous ne prenons pas nous-mêmes notre propre mesure. Nous sommes aujourd'hui, nous, les Congolais se pensent comme un petit peuple, malmené. Non, on n'est pas là. Et c'est les journalistes, son rôle, c'est celui-là. C'est d'écrire un nouveau récit du Congo.
Monsieur Henri Cressin.
Vous vous souviendrez que la loi a été, les textes, disons, a été voté au niveau du Sénat depuis le 15 octobre 2015. Aujourd'hui, nous sommes en 2017. On voyait au niveau de l'Assemblée nationale, au mois d'octobre même, j'ai même l'accusé réception au niveau de l'Assemblée nationale, le 20 octobre 2015. À chaque session parlementaire, la loi est inscrite, traitée d'abord par la commission socioculturelle, puis après la commission mixte socioculturelle et PAJ, et nous avons assisté en tant qu'experts, parce qu'on a été accrédité au niveau du Parlement pour travailler avec les honorables députés par rapport à cette question, et le travail était fini. Mais le problème, ça bloque, je dis qu'il est politique. Et pourquoi je dis qu'il est politique? Lorsque nous travaillons avec la commission, certains députés vous posent la question, cette disposition, quelle est ses retombées avec le chef de l'État? En pleine discussion, hein, et vous dites, mais honorable, la loi est impersonnelle. Oh non, 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 non. Nous devons garantir les intérêts du chef. Cette, votre loi-là, c'est compliqué. Deuxième fait, je rencontre un grand député aussi, toujours de la majorité, parce qu'à un certain moment, le gouvernement disait que c'est la majorité qui vote. Je le rencontre à l'hôtel Pullman. Je l'appelle de côté, je dis, mais honorable, mais la loi là, ça traîne et tout ça. Un ancien journaliste aussi. Il va me dire, non, mais écoutez, cette loi là, on l'a lue, mais bon, viens, viens. On se met à côté, dit, je vous parle parce qu'on est hors caméra. C'est votre loi-là, c'est une bonne loi. J'ai dit, ce n'est pas notre loi, c'est la loi de la République. C'est une bonne loi, mais le contexte actuel, nous devons protéger les intérêts du chef. Je suis là avec la volonté d'une personne qui a voulu que je sois là. Et je dois protéger ses intérêts. Cette loi-là, on finira par la voter, mais pour l'instant, si on la vote avec le climat politique actuel, les gens vont aller fouiller partout et ça sera du boom. Et à ce moment-là, nous allons exposer le chef. On est buté à ça, ça pose un problème. On a amené le plaidoyer même jusqu'au niveau de l'Union africaine. Et madame la commissaire de l'Union africaine, en charge de l'accès à l'information et la liberté d'expression, est venue ici au mois d'octobre. Le 3 octobre. Elle a parcouru la ville, le président de l'Assemblée, le président du Sénat, même le chef du gouvernement. Elle a fait la ronde partout pour plaider par rapport à cette loi. Mais à son retour, on dit non, c'est important, une loi, en tout cas, on va en prendre. Mais par après, nous rencontrons à Banjul, j'ai dit, mais vous êtes passé au Congo, mais voilà, nous sommes ici à Banjul. Mais il n'y a encore pas de résultats jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est pour dire que le contexte politique actuel, c'est ce qui bloque. Est-ce qu'il faut-il faire la pression? En fait, c'est une loi citoyenne. Et la bonne pression, ce n'est pas aller faire des tapages, La bonne pression, c'est comme Honorable disait, ce sont les faits qui précèdent la loi. Nous avons tout un arsenal juridique au niveau international, régional et voire même au niveau national ici qui nous donne aussi ces droits-là. Commençons à faire la pression en demandant les informations, en utilisant l'approche basée sur l'accès à l'information. Et lorsqu'on vous refuse, venez, les avocats sont là au niveau du collectif 24 qui puissent vous défendre parce qu'on vous a refusé telle information. Et on crée une jurisprudence, ça va pousser les politiques à faire avancer la loi.
Merci infiniment. Problématique d'accès à l'information pour les élections démocratiques, transparentes et apaisées. La question est ouverte, le débat est ouvert, mais l'émission est terminée. Merci de l'avoir suivi. Si vous l'avez aimé, dites merci Olivier Touzolan et son équipe qui a organisé. Et ça aurait été encore mieux si la loi sur l'accès à l'information était promulguée. Merci.